Bonjour tout le monde, un très bon début de semaine à vous tous. J'espère que ça se passe bien dans vos vies. On va passer les deux prochaines heures ensemble. Puis on a pas mal de choses pour vous aujourd'hui. D'abord, c'est le début des journées pour la persévérance scolaire. Vous savez qu'il y a toujours beaucoup de décrochage scolaire au Québec. On en parlera d'ici une demi-heure avec des gens qui vont nous dire comment garder nos jeunes accrochés à l'école, au cégep. Il y a de plus en plus de jeunes qui travaillent. Puis c'est vrai que l'attrait de l'argent, ça fait en sorte que des fois, tu sais, quand tu cherches le but de pourquoi tu es à l'école, quand tu trouves plus de fun hors de l'école, c'est pas évident de garder le focus. Donc, je sais que ça peut peut-être vous toucher. Je vous raconterai une histoire un petit peu plus personnelle d'ailleurs tout à l'heure là-dessus. Bien sûr, il y a le procès d'Éric Salvaille. On aura l'occasion, s'il y a lieu ce matin, d'y revenir. On va parler bien sûr d'impôts parce qu'on va vous donner des trucs pour réduire vos impôts, si possible, comment payer moins d'impôts cette année. Et tout ce que vous voudriez savoir sur les REER, ben, vous pourrez poser la question à notre comptable professionnel qui sera là. Fiscaliste en plus. Il a écrit le livre « Réduisez vos impôts ». Donc, c'est la bonne personne pour nous donner toutes sortes de trucs au moment où on a encore quelques jours là, pour penser peut-être investir dans son REER. Vous me direz si c'est le genre de choses que vous choisissez encore ou si vous préférez investir en immobilier. Mais d'abord, je veux simplement vous demander si vous, après cette semaine, plus qu'une semaine même déjà, devant cette crise des trains, blocage des routes par les Autochtones, ça a commencé en Colombie-Britannique et ça se rapproche parce que c'est devenu une crise ferroviaire. Il y a 450 travailleurs du Canadien national qui ont été mis à pied et selon la compagnie de train, il y aurait peut-être 1000 emplois là, qui pourraient être touchés par des mises à pied si la situation persiste. Pour l'instant, on y va un peu en marchant sur des œufs. Et je sais que vous avez été très nombreux à avoir cette conversation sur les réseaux sociaux en fin de semaine. Je vous ai lu, vous m'avez écrit. Il y a beaucoup de gens qui disent « Hey, tu as parlé des contraventions la semaine dernière. » Il y a des gens qui comparaissent ça. Tu te gares devant chez toi pendant une tempête de neige où on dit « on va passer la souffleuse, gare-toi pas là. Si tu le fais, on va te donner une contravention de 151 $ Les gens faisaient l'analogie entre le fait d'avoir une voiture garée illégalement puis le fait de bloquer une route. Évidemment, je sais que c'est pas la même chose, mais je comprends ce que vous dites quand vous dites ça, quand vous comparez votre situation à vous et le traitement des Autochtones et que ça vous frustre. Et c'est cette frustration-là que je veux un peu mesurer ce matin avec vous, parce qu'on dit, bon, les Autochtones, on n'est jamais capable d'intervenir quand ça les touche. En même temps, c'est toujours plus complexe que ça, vous le savez. Puis nous, ici au Québec, on le sait, on a payé pour apprendre. Ça va faire 30 ans cette année qu'on a vécu la crise d'Oka. Les plus jeunes s'en souviennent pas, mais on pourrait leur rappeler d'ailleurs ce qui s'est passé. Il y a quand même eu mort d'homme. Et des fois, rentrer avec ses gros sabots dans une crise pensant la dénouer, c'est pas toujours la meilleure façon. Le dialogue est toujours à privilégier. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je veux savoir, êtes-vous frustré par cette crise-là? Les trains, peut-être vous êtes un employé du système ferroviaire, peut-être vous êtes obligé, parce que la ligne Exo 4 est toujours bloquée, vous êtes obligé de vous arranger autrement depuis plus d'une semaine. Puis c'est peut-être tout ce non-traitement par le gouvernement de Justin Trudeau aussi qui vous frustre. Bref, vous me le dites au 514-790-9850, dans le respect, bien sûr, pas besoin de vous le rappeler. 1-866-790-9850 pour nous joindre et en discuter. Éric Cardinal est expert en droit et politique autochtone. Il est aussi chargé de cours à l'Université de Montréal. Bonjour, Monsieur Cardinal. Monsieur Cardinal, vous êtes là? Vous êtes bien là, Éric?
Oui, oui.
Bon, on vous écoute. Vous en pensez quoi de cette crise-là? Est-ce que vous comprenez la frustration des gens?
Ben oui, ben, c'est sûr que je comprends la frustration des gens. Puis je peux vous dire que beaucoup de personnes, autant du côté autochtone que non autochtone, qui souhaitent que qu'il y ait une sortie de crise là, cette semaine. On s'entend là-dessus. Puis, mais en même temps aussi, moi, je suis bien placé pour comprendre aussi la frustration du côté autochtone et les raisons derrière les blocus.
Oui, bien, expliquez-nous donc. Expliquez-nous donc. Oui, vous dites que ce n'est pas simple.
Non, c'est pas simple. Il y a plusieurs enjeux, mais à la base, là, c'est une frustration du fait que les gouvernements, particulièrement le gouvernement fédéral de Justin Trudeau, ne passent pas de la parole aux actes. Ça fait des années, pour certains des décennies, certains des plusieurs centaines d'années qu'on leur promet, qu'on leur fait toutes sortes de promesses et que il n'y a pas de gestes concrets. Donc, il y a une certaine frustration. On le voit depuis plusieurs années. On s'appelle « The Idle No More ». Puis, il y a eu des mini-crises un peu partout au Canada. Wet'suwet'en, ça fait depuis 2010, en fait, là, qu'il y a des oppositions au projet, que les chefs héréditaires s'opposent au projet et ce qui a culminé il y a quelques mois avec des injonctions et des interventions policières. Et c'est les interventions policières qui ont fait naître d'autres manifestations d'appui dans l'ensemble du Canada. Et là, on se retrouve avec, par exemple, dans l'Est, avec les Mohawks qui ont aussi leur propre doléance. Donc oui, ils sont en appui au Wet'suwet'en, mais ils sont aussi en eux-mêmes en revendication de droits et de territoire.
Oui, mais est-ce que c'est un prétexte que cette crise qui est reliée au problème de l'oléoduc en Colombie-Britannique?
Ben, ça devient pour certains, oui, aussi une opportunité de faire valoir leur doléance à eux. Donc, ça s'ajoute.
Parce que ce que les Québécois entendent, c'est que des ententes ont été négociées avec ces Autochtones et que c'est à l'interne où ils chicanent. Puis là, on a l'impression que une partie de la frustration de tous ceux qui aujourd'hui sont plus capables de prendre le train, là, on parle de gens qui sont mis à pied au CN, on parle de marchandises qui se rendent pas où elles doivent aller. Il y a comme un début de crise ferroviaire. On se rend compte à quel point, finalement, le train... Il n'y a pas que les camions là, qui livrent des marchandises. Visiblement, ce matin, on s'en rend compte. C'est tout le Canada qui est de plus en plus bloqué. On nous dit, là, attention, le prix des aliments va augmenter parce que tout va augmenter. Il y a comme un effet, là, vraiment d'une espèce d'effet domino qu'on va ressentir, nous, au Québec, là, si ça se poursuivait encore, ne serait-ce que quelques jours, là.
Oui, puis c'est on comprend que là, c'est des citoyens, des entreprises, des Canadiens qui sont pris entre l'arbre et l'écorce, en fait, parce que le gouvernement a laissé traîner les choses. C'est un peu comme l'environnement. On a beau dire qu'on reconnaît les droits des Autochtones, si dans les faits, il n'y a pas de gestes concrets, ben à un moment donné, les principaux concernés deviennent frustrés et réagissent. Donc, il faut arrêter de laisser. Puis là, s'il y a sortie de crise, il faut quand même régler les problèmes de fond. C'est pour ça que c'est important là, que le gouvernement fédéral soit actif.
Oui, bien là, on a vu que Justin Trudeau ne partait pas à la Barbade, finalement. Ça aurait été assez malencontreux de sa part de le faire.
C'est une bonne idée.
C'est une bonne idée. Là, il rencontre son comité de crise ce matin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous, au Québec, on a eu la crise d'Oka. Hein? Je pense que on peut...
Il faut éviter les interventions policières. Hein? On l'a vécu hein, il y a 30 ans. Donc, déjà, si on lève cette menace-là d'intervention policière, l'utilisation des tribunaux par des injonctions, c'est pas la façon de faire. C'est le dialogue, c'est la discussion. Donc là, il y a un début de dialogue amorcé, notamment par le ministre Mark Miller. C'est un bon pas dans la bonne direction. Maintenant, le premier ministre qui est personnellement impliqué, moi, je suis relativement optimiste là, pour les prochaines heures.
Et donc, il faut intervenir de quelle façon, Éric Cardinal? Quand vous dites qu'il faut éviter l'intervention policière, il faut y aller.
Le dialogue. Le dialogue, c'est les négociations. Puis avec toutes les parties impliquées, c'est-à-dire les chefs héréditaires, on ne peut pas dénigrer les formes traditionnelles de gouvernance des Premières Nations qui ont subsisté même après l'adoption de la loi sur les Indiens en 1876. Puis il faut en tenir compte. Il y a plusieurs Premières Nations où les formes traditionnelles de gouvernance sont toujours présentes et doivent être respectées.
Mais donc, ça veut dire qu'il faut leur donner quelque chose. Qu'est-ce qu'on leur donne? Qu'est-ce qu'ils veulent?
Bien, ça doit être discuté aux tables de négociation. Comme je l'ai dit, il y a 630 communautés au Canada. Il y a 50 nations distinctes. Chacune a ses demandes, ses doléances, ses griefs. Il faut, c'est du cas par cas.
Oka a duré 78 jours. On ne pensait pas que ça serait aussi long. Cette crise-là va durer combien de temps, d'après vous?
J'espère que ça ne sera pas aussi long. J'ai bon espoir qu'on ait appris des leçons du passé et qu'on va trouver une sortie de crise beaucoup plus rapidement.
Pensez-vous?
Je le souhaite. Je suis relativement optimiste, je disais.
Oui, c'est bon. Possible. Ben merci, Éric Cardinal, expert en droit et politique autochtone, chargé de cours à l'Université de Montréal. Non, merci beaucoup, M. Cardinal. Merci bien. Pas évident. Pas évident du tout. Si vous êtes frustré par tout ce qui se passe, par cette crise qui est en train de virer crise socio-économique, visiblement, on a Georges à l'écoute. Bonjour, Georges. Merci de nous appeler. Comment vous voyez ça, vous?
Bien, en fait, je vois ça parce que ils ont raison de faire ce qu'ils font. Il faut arrêter de les appeler des Indiens, c'est des Amérindiens, c'est le peuple natif de où est-ce qu'on est là.
Ouais.
On est sur leur terre présentement, là. Il faut arrêter de dire que, comme voir ça négativement, ils font ça pour le bien. On dit que si la température change de 1%, ça ça va faire des effets dévastateurs. Mm-hmm. Ils sont là en train d'empêcher une pipeline de gaz naturel qui ont, par rapport, c'est documenté qu'il y a des défauts par rapport à ces pipelines-là, aux oléoducs. Je comprends pas où que le gouvernement ne met pas ces culottes puis il appuie. Qu'est-ce qui se passe? Mm-hmm. C'est une compagnie par rapport à de l'argent, là. C'est juste de l'argent là, qu'ils veulent.
Donc, vous trouvez que la revendication des Autochtones ici est tout à fait valable. Merci beaucoup, Georges. Martin, votre opinion là-dessus?
Ben, mon opinion, je suis tanné des histoires des Autochtones. Je suis tanné de payer pour eux. Je vis près d'une réserve. C'est des gens qui sont très paresseux, qui se laissent vivre, et puis tout l'argent qu'on leur donne, si vous saviez toute la corruption qu'il y a dans les chefs, là, dans les communautés autochtones, là, mm-hmm. vraiment, je suis tanné, puis bon, c'est pas nouveau ce que me dire, mais évidemment, si c'était une gang de blancs, ça ferait longtemps que ça aurait été réglé. Mm-hmm. Et je me demande s'il faut pas que ce soit les citoyens qui aillent tasser ces gens-là.
Mm-hmm. Ben là,
à un moment donné, là, ça suffit, il y a de l'inaction de la police puis du gouvernement.
Merci.
Je sais pas pourquoi, c'est des...
Merci beaucoup, Martin. On va s'arrêter ici. Je pense que ce que vient de nous dire Martin, beaucoup de gens le ressentent ce matin. Évidemment, bon, on s'entend, personne va régler ça de lui-même. Hein. On s'entend qu'il y a des gens, des comités, comme ce matin, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui a décidé d'organiser une réunion d'urgence pour déjouer l'impasse. C'est son travail de le faire avec ses ministres. Il y a Mark Miller, entre autres, ministre des Affaires autochtones, qui est le député de Ville-Marie-Verdun, qui est supposé... avoir engagé le dialogue. Vous avez vu, en fin de semaine, ça n'a pas donné grand-chose. Moi, je ne suis pas aussi optimiste là, qu'Éric Cardinal pour avoir couvert Oka il y a longtemps. Je peux vous dire que ça peut traîner en longueur. Une chose est sûre, c'est qu'il y a un véritable enjeu ici, social, économique. On est tous là-dedans. On devrait tous être intéressés par ce qui se passe. Parce qu'au-delà du fait qu'il y a des gens qui sont privés de train, de services de train en ce moment au Québec à cause de ça, il y a des gens qui ne peuvent pas se rendre ailleurs dans le pays à cause de ça. Il y a aussi nous tous qui n'auront peut-être pas accès à des marchandises qui devront être livrées. Bref, vous voyez, là, il y a comme un effet boule de neige. On va parler tout de suite après la pause à un autre expert. Et bien sûr, vos commentaires au 514-790-9850. Je vous demande si vous êtes frustré par ce qui se passe ou par ce qui ne se passe pas assez vite, justement, par rapport à toute cette crise qui a été générée par le blocage des routes par les Autochtones en Colombie-Britannique. Puis je vous rappelle que c'est à cause d'un oléoduc quand même. À tout de suite, tout le monde. On parle du blocus des Autochtones, blocus des routes en Colombie-Britannique qui fait finalement un effet de domino et qui se rapproche de nous parce que déjà, on le sait, il y a Exo 4, la ligne qui est toujours bloquée. En Ontario, tout le réseau ferroviaire, là, Ontario, Colombie-Britannique, Ontario, là, c'était pas mal bloqué. Et puis là, ben, on apprend finalement qu'on dépend beaucoup de notre réseau de train pour tout ce qui est marchandises, pour tout ce qui est alimentation, pour tout le reste. On parle beaucoup des camions, on oublie un peu les trains. Ben là, on l'a un peu dans la face ce matin. 450 personnes déjà mises à pied. On parle de 1000 personnes qui pourraient être touchées directement. Alors, je sais que vous êtes frustrés parce que vous avez l'impression qu'on a ici un double traitement. Vous avez l'impression que dès qu'il s'agit que c'est des Autochtones, on n'est pas capable de gérer ça. En même temps, il faut comprendre aussi qu'il y a des revendications qui remontent à loin. On vient d'entendre un expert qui nous dit que c'est peut-être aussi pour les Autochtones l'occasion de se faire entendre sur d'autres ententes non respectées. C'est un peu au cas, finalement, vous savez, d'une certaine façon, et c'est pas simple à régler. Une chose est sûre, je peux vous le garantir, c'est pas par une intervention musclée, policière, qu'on y arrivera, c'est vraiment par le dialogue. On a avec nous Carole qui veut intervenir. Bonjour Carole, vous en pensez
bonjour,
quoi, vous?
Bonjour Isabelle, bonjour tout le monde. Bien, ce que j'en pense, c'est que moi, présentement, je suis pas personnellement touchée, mais tout le monde l'est indirectement. Mm-hmm. Et on fait juste penser cet automne, lorsqu'il y a eu la pénurie de diesel pour les champs à cultiver, les grains à sécher et
ben
tout
oui.
ça.
Ben oui, oui.
Alors, c'est eux aussi. Tout le monde est touché, finalement. Ma solution ou ma proposition de solution serait de mettre en pénurie les sections des voies ferrées bloquées pour leur faire comprendre à quoi ils nous confrontent, dans le fond. Vous comprenez-vous ce que
ouais,
je veux
dire? Oui, c'est-à-dire, oui, je comprends. Okay.
Donc, tu sais, à ce moment-là, peut-être que lorsque eux-mêmes auront faim ou manqueront de pétrole ou de ressources quelconques, ils changeront peut-être un peu leur fusil d'épaule puis se dire, ben, on peut peut-être choisir une autre façon de conventionner nos demandes-là.
Ben, c'est une idée intéressante dans la mesure où déjà les Autochtones, merci Carole, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre Serge Simon en fin de semaine, qui est le grand chef de Kanisataki, puis qui disait qu'il fallait lever ce blocus-là parce que je pense que même les Autochtones ont de la misère. Là. Fait que je pense que même eux le vivent. Je pense pas qu'ils fassent ça de gaieté de cœur non plus, puis que ça soit facile. Là. Fait pas chaud en ce moment, je vous le rappelle. Jacques est avec nous. Bonjour, Jacques.
Bonjour.
On vous écoute.
Moi, je voudrais juste rappeler à l'homme blanc
oui.
Que je suis moi-même
oui.
Que si on est ici au Canada,
mm-hmm.
OK, vivant, puis vivant grassement, c'est à cause des Autochtones qui nous ont sauvé la vie. Okay? Mm-hmm. Que le monde arrête de dire que c'est des paresseux. J'en connais beaucoup de paresseux. Je connais bien du monde dans mon petit village qui se convive.
Mm-hmm.
Et ce ne sont pas des Autochtones. Donc, ouais. Les Merci. Promesses du gouvernement, qu'il y ait le respect, OK? Parce que les réserves, là, le mot réserve, ça veut dire tu gardes en captivité des animaux.
Ouais. Merci.
Les Autochtones ne sont pas des
Merci,
animaux.
Jacques. Jean est avec nous. Bonjour, Jean.
Bonjour, Isabelle. Ça va?
Oui, on vous écoute rapidement.
OK, moi, j'ai vécu la crise d'Oka. Je connais très bien Serge Simon. C'est un Pacifique.
Mm-hmm.
Le problème, c'est que c'est l'inaction des gouvernements, surtout fédéral, depuis des années. C'est ce qui nous arrive là, présentement. Et il faut faire attention, parce que c'est un petit groupe de crépuscules en passant,
mm-hmm.
OK, qui sont en arrière de ça. Moi, j'ai vécu Oka avec Lasagne, mm-hmm. si tu te souviens bien,
ben, oui.
qui venait d'Aquasasti, New York, OK?
Mm-hmm.
Alors, c'était juste un petit groupe. Puis c'est ce qui arrive présentement, mais malheureusement, M. Trudeau, OK, n'a pas la capacité de régler ce problème-là. C'est ça qui me fait peur un peu.
Ouais.
Alors, faut faire attention. Je suis contre le blocus et puis je pense qu'il faut régler le problème immédiatement.
Ouais. Merci, Jean. Restez en ligne parce qu'on va prendre vos numéros, votre numéro de téléphone. Avec moi, André Bellil, qui est président de l'Association québécoise de lutte à la pollution atmosphérique. Bonjour, André. Votre opinion par rapport à cette crise, là?
Ben, c'était malheureux, mais c'est le résultat d'une action. Quand on met le charrue devant les bœufs, là, ça ne peut pas faire autrement. Il y a une convergence de problèmes là-dedans. D'abord, aucun respect pour la communauté Wet'suwet'en, mais en même temps, il y a des luttes depuis longtemps pour réduire l'utilisation des combustibles fossiles
ouais.
à cause du réchauffement planétaire. Bien là, on a décidé de faire passer ce gazoduc-là sans consultation. On passe par-dessus le monde et on se fout du réchauffement planétaire. Le résultat est imprévisible.
Ouais. En même temps, André, aujourd'hui au Québec, là, j'ai vu ça. Il y a un citoyen, Yvon Labrie, qui a lancé il a fait comme un sondage. Il a lancé une page publique pour au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour mesurer quel était l'appui des Québécois à GNL, qui est, on le sait, le projet aussi là. Il y a un projet là-bas de port méthanier, de gazoduc et tout ça. GNL, c'est important pour la communauté du Saguenay. Il y a beaucoup d'emplois qui sont liés à ça. Les Québécois, semble-t-il, dans ce coin-là, il y a 20 000 personnes qui ont signé comme quoi ils étaient en faveur. Fait que, c'est difficile, là. Il y a ceux qui veulent, puis il y a ceux qui veulent pas, là.
Oui, bien, Mme Maréchal, vous apprendrez pas grand-chose. Vous êtes quand même très expérimentée. Qui est derrière ce sondage-là? Ben, ce sont les promoteurs du projet GNL qui ont mis beaucoup d'argent en relations publiques pour obtenir ce qu'ils veulent. Là, on peut pas changer la réalité, puis il faut pas la nier non plus. Il faut sortir des combustibles fossiles. Présentement, là, en Antarctique, il fait plus 20 degrés. Ça s'est jamais vu. Alors, faut arrêter de garder la tête dans le sable et agir de façon responsable.
Ouais. Ça s'en va où, cette crise-là, André? Là? Comment faire? On parlait du blocus. On parlait de la véritable revendication de fond. Est-ce que c'est, à votre avis, vraiment ce gazoduc, cet oléoduc, ou c'est plus profond que ça? Ça tient de la revendication territoriale autochtone?
Bien, il y a les deux. Hein? C'est un territoire non cédé. On a décidé qu'on passait à travers le territoire et on enfonçait ce gazoduc-là dans la gorge des Premières Nations. Mais il y a aussi tout le contexte climatique. Il y a plein de groupes écolos et de citoyens et citoyennes qui s'opposent à ça. Et il faut arriver à la logique. Nos gouvernements sont bien vite pour aller dire qu'ils sont des leaders dans la lutte au changement climatique, mais quand vient le temps d'agir, ils sautent. Bien, ça peut pas faire autrement que causer des commotions comme ça. C'est pas comme s'il y avait pas de solution. Prenez, par exemple, les agriculteurs. Moi, je demeure en Beauce. Les agriculteurs, là, sont otages d'une crise du propane. Bien, si on produisait du biométhane partout à partir du fumier, puis du furin, puis des matières résiduelles, ben on pourrait encourager l'indépendance énergétique des agriculteurs et de notre société, mais on fait comme si de rien n'était. On continue à défendre les intérêts de grandes corporations. Puis ce gaz-là, autant que le gaz de GNL, c'est même pas pour nous autres. C'est soit pour la Chine, soit pour l'Europe.
Ouais. Ben comme ce qui se passe en Colombie-Britannique, là. Finalement, ben oui, là, c'est tout pour le marché asiatique, là, de ce qu'on en comprend, là, ce gazéoduc-là.
Ben exactement. Alors, à un moment donné, là, il faut avoir un peu de respect pour nos citoyens. Les Premières Nations sont aussi nos concitoyens. Et dans le contexte du réchauffement planétaire, ben tabarouette, il va falloir qu'on agisse de façon responsable à un moment donné.
Bien, merci beaucoup, André Bellil, président de l'Association Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. Alors voilà, je trouvais que c'était important qu'on parle de ça ce matin. On va s'arrêter ici. Autre sujet d'importance, commence aujourd'hui les journées pour la persévérance scolaire. Ça, c'est vraiment, véritablement concret parce qu'il y a beaucoup de jeunes en ce moment. Là, en ce moment, là, c'est la période d'examen au cégep, entre autres, à l'université, également aux fins de secondaire. Puis il y a beaucoup de jeunes qui se disent « Oh là là, ça va pas bien, je vais peut-être finalement avoir plus de... Je devrais plus décrocher que de rester. » En plus, on cherche le but. Beaucoup de jeunes, là, en ce moment, se demandent pourquoi ils sont à l'école. L'école, c'est plate. L'école n'est pas capable de les retenir. Aller sur le marché du travail, c'est plus alléchant. On parle de tout ça. Vous me direz si vous avez un jeune qui est en voie de décrocher, puis comment vous faites pour essayer de le garder toujours intéressé à l'école. On a des spécialistes qui vont nous dire comment, tout de suite après.